Bonjour à tous. Donc, merci d'avoir invité l'April lors de cette journée. Donc, je vais essayer de vous parler des mesures techniques de protection, particulièrement de noms de code. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse, comme Palladium, TCPA, tout ce qui se regroupe sous un vocabulaire qui s'appelle Trusted Computing, c'est-à-dire l'informatique de confiance. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu parlé lors de cette journée des mesures techniques de protection. Comment protéger dans un environnement totalement numérique une œuvre qui est en fait une suite de 0 et de 1, c'est-à-dire en fait un chiffre, une musique en MP3 ou un film en DivX, ce n'est qu'un grand nombre, un nombre parmi d'autres. Donc ça veut dire dire qu'on a un droit sur ce nombre, ça signifie protéger ce nombre. Eh bien, dans le monde numérique, ce n'est pas quelque chose de très évident. On va le voir un petit peu. Alors, il y a des tentatives, et ces tentatives, une de ces tentatives, c'est en particulier l'informatique de confiance. Alors, l'informatique de confiance, elle vient de la pression de différents acteurs. Les premiers acteurs qui font pression pour qu'on ait un monde plus sûr, entre guillemets, parce qu'on reviendra dessus, bien sûr, dans ce monde numérique, c'est bien sûr les gens qui travaillent dans le contenu. Protégez-moi ces contenus, s'il vous plaît. Mais on a aussi des pressions de la part des utilisateurs qui, derrière ce vocabulaire informatique de confiance, espèrent peut-être se tirer d'affaire avec les spams, les virus, et d'une manière générale, toutes les atteintes à leur sécurité. Mais on a aussi les informaticiens qui travaillent sur ces problématiques de la sécurité depuis très longtemps, avec des choses comme la crypto, c'est-à-dire chiffrer sur un disque, chiffrer les échanges de manière à ce qu'on ne puisse pas les lire en clair sur le réseau, qu'on ne puisse pas, si on prend un disque dur, lire en clair les données qui sont stockées, etc. Donc on a l'informatique de confiance est un petit peu à la rencontre de différentes attentes, qui sont bien sûr celles des gens qui livrent des contenus, mais pas simplement ceux-là. Alors, cette réponse, c'est en fait construire un état policier dans le monde numérique. Ça veut dire transformer l'informatique telle qu'elle existe aujourd'hui pour qu'il y ait beaucoup plus de contrôle, pour qu'il y ait des gardiens dans votre ordinateur qui vont surveiller un petit peu tout ce qui se passe et qui vont peut-être vous empêcher ou non d'accéder à telle ou telle information ou vous empêcher de faire telle ou telle action. On va un petit peu voir un petit peu comment ça peut se passer, ça. Alors, la première norme dont on peut parler, c'est TCPA, qui a changé de nom, d'ailleurs, qui s'appelle maintenant TCG, Trusted Computing Group, qui est né sous l'impulsion des grands noms de l'informatique en 99, qui sont Intel, HP, IBM, Microsoft, donc c'est pas les petits acteurs de l'informatique. Et c'est une norme qui a évolué jusqu'à récemment. On est passé de différents. Alors, toutes les technologies dont je vais vous parler aujourd'hui, ce ne sont pas des technologies figées. C'est-à-dire que les normes évoluent sous la pression, entre autres, de pas mal de peur du public qui, en voyant les normes version 1.0, s'aperçoit qu'il y a des vrais problèmes en termes de vie privée. Donc au fur et à mesure, il y a des choses qui sont corrigées, mais on va voir que ces différents aspects, les lignes de force restent. Donc on va s'atteler un petit peu à les décrypter, celles-ci. Alors, TCPA, c'est le cœur de TCPA, c'est quoi? C'est ajouter dans chaque ordinateur un coprocesseur qui va être spécialisé dans la crypto. Donc de la même manière qu'aujourd'hui vous avez dans votre ordinateur un coprocesseur mathématique qui est spécialisé dans les fonctions mathématiques, on va ajouter une petite puce qui va simplement gérer des clés de cryptographie qui va permettre de déchiffrer et de chiffrer des données, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que la crypto? Pour ceux qui ne savent pas un petit peu, c'est simplement quand on a un message en clair, c'est le transformer dans un texte complètement illisible, avec une clé ou avec deux clés. Il y a deux façons de le faire, c'est ce qu'on appelle la cryptosymétrique ou asymétrique. Donc il y a le système avec la clé, une seule clé, c'est vous qui cryptez vos données, et pour décrypter ces données, pour les déchiffrer, il faut avoir la clé, qui elle-même aussi a un nombre, hein, bien sûr. À chaque fois on est dans le monde numérique, c'est un nombre. Ou le système à clé publique, clé privée, vous avez deux clés, une clé qui va chiffrer et une autre clé qui va déchiffrer. Donc ce coprocesseur, en fait, va gérer toutes ces fonctions qui aujourd'hui existent déjà dans l'informatique, mais qui sont gérées uniquement de manière logicielle. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change un petit peu de basculer ces fonctions qui aujourd'hui sont simulées par des logiciels et les mettre dans une puce au niveau hardware? Eh bien, ce que ça change, c'est que ça augmente le degré de difficulté pour aller casser potentiellement la fonction de chiffrement, et donc pour un potentiel quelqu'un de malveillant qui voudrait atteindre à vos données qui sont chiffrées, sans votre clé d'arriver par ce qu'on appelle la force brute à essayer toutes les combinaisons possibles et à trouver vos données en clair, ou par d'autres moyens s'il y a des trous de sécurité, etc. Le fait de mettre dans le matériel, ça ne rend pas impossible ces choses-là, mais ça les rend beaucoup plus compliquées. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de décompiler un soft de crypto que d'aller dessouder une puce, étudier comment elle fonctionne, essayer de la modifier pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur et de la contourner. Alors je vais passer un petit peu sur les différents aspects techniques de cette puce. La seule chose dont je peux vous parler, c'est que dans cette puce, au-delà des aspects crypto eux-mêmes, qui sont peut-être un peu trop complexes, il y a ce qu'on appelle des registres qui vont stocker l'état de votre machine, ou plutôt des différents composants de votre machine. Donc vous allez avoir un registre qui va stocker l'état de votre BIOS, c'est-à-dire le petit logiciel qui vous permet au début de démarrer l'ordinateur. Vous allez avoir un registre qui va stocker l'état du système d'exploitation lui-même, par exemple Windows ou Linux. Vous allez avoir un registre qui va stocker l'état de votre carte graphique, de votre clavier, etc. Et on va voir que les services de cette puce vont pouvoir associer les fonctions classiques de la crypto, c'est-à-dire chiffrement et signature, à ces états. Alors, quelle utilité? L'utilité, c'est que chiffrer une donnée en associant à l'état d'un système, ça va permettre que si vous redémarrez votre système en modifiant ne serait-ce qu'une toute petite partie de ce système, un composant, donc par exemple le BIOS ou la souris, ou si vous changez de clavier ou si vous changez de système d'exploitation, vous ne pourrez plus accéder aux données qui ont été chiffrées dans le système sur lequel vous l'avez préalablement chiffré. Et donc ça permet d'éviter qu'on utilise par exemple Linux pour accéder à un système de fichiers qui a été créé sous Windows qui contiendrait des contenus protégés, par exemple des films avec Mickey dessus, ce genre de choses. Ce ne serait pas possible. Il y a un autre service qui est rendu par cette puce qui s'appelle la TPM, donc, qui est dans la norme TCPA, c'est l'attestation, qui est un petit peu l'équivalent de ce qu'est le scellement au chiffrement. C'est en fait la signature, mais en corrélation avec les registres qui ont stocké l'état de votre machine. Voilà. Donc, tout ça paraît très technique. Alors, quelle est la problématique? Finalement, c'est aussi des services, hein. Le fait d'ajouter un coprocesseur crypto à une machine, on peut la vision naïve et intéressante, c'est de dire, ah, mais très bien, j'ai des services en plus, de la même manière que le coprocesseur mathématique, c'était quelque chose de bien pour ma machine, puisque j'avais des choses qui allaient être plus rapides pour les fonctions mathématiques. Là, de la même manière, j'ai des choses qui vont être plus rapides, puisque hardware, plus efficaces, puisque c'est vrai que stocker des clés au niveau hardware, c'est un gain de sécurité. Si j'aime, pour ceux qui utilisent des connexions sécurisées de type SSH, par exemple aujourd'hui, il y a toujours le problème que si on se connecte sur votre machine, on aura accès à votre clé privée. Là, c'est vrai qu'avec ce type de matériel, le fait d'accéder à votre machine ne permet pas d'accéder à vos clés privées, parce qu'elles sont enfermées dans un coffre-fort qui est cette fameuse puce. Mais ça pose des questions déjà au niveau de la gestion des clés. Et c'est là la première question, c'est que ces fameuses clés qui vont être créées par cette puce, gérées, cette arborescence de clés, parce qu'il y en a beaucoup, hein, tout en haut de cette arborescence de clés, vont se trouver des clés créées par les fabricants du coprocesseur, qui vont identifier de manière unique et globale sur toute la planète votre machine parmi toutes les autres. Alors, les gens qui ont fait la norme TCPA sont pas fous, ils ont dit oui, mais vous inquiétez pas, cette clé-là, elle est inaccessible. Parce que bon, ils savent bien que ça allait poser des questions importantes de la même nature que celles qui ont été posées à l'époque lorsqu'il y a eu cette fameuse identifiant dans le Pentium 3 qui a fait soulever beaucoup d'interrogations sur les visées d'Intel. Mais même si ces clés primitives, disons, sont a priori inaccessibles, bon, déjà, on n'a pas la garantie totale parce que les normes bougent et pour l'instant, il y a très peu d'implémentations qui sont sorties et ça peut encore avancer. Mais il semblerait que les clés enfin, ces clés primitives signalent même des clés qui soient pas des clés primitives, on appelle des AIK dans le jargon de la norme, qui elles-mêmes ne seraient pas gérées par l'utilisateur, mais qui seraient gérées par des tiers de confiance. Donc on voit bien que un des contrôles sur votre machine, qui était auparavant potentiellement de gérer pour vous des couples de clés privées publiques, vous y est retiré et délocalisé chez des tiers pour l'instant on ne sait pas qui exactement seront ces tiers. Et voilà. Donc ça, c'est la première question qui est posée par une question technique qui est posée, mais on va voir, il y en a d'autres derrière. Alors ça c'est TCPA, hein. TCPA c'est essentiellement une norme sur du matériel avec cette fameuse puce qu'on peut voir comme un coffre-fort au sein de votre machine. Derrière TCPA, qui est une norme complètement indépendante de la plateforme, c'est-à-dire ça peut fonctionner sur les PC, sur les pédales, les téléphones à terme, etc. Donc tout ce qui reçoit un système d'exploitation, et indépendante également du système d'exploitation. C'est-à-dire que ça peut être utilisé par un système comme Linux, comme Microsoft, n'importe quoi. Vous avez d'autres sociétés qui ont bâti, toujours dans ce monde de l'informatique de confiance, des systèmes apparentés, dont le plus célèbre est bien sûr Palladium. J'emploie Palladium, même si ce nom a changé depuis mal le temps, parce que c'est plus pratique, parce que le nouveau nom s'appelle NGSCB. Qui a un nom lui-même un peu crypté, hein, parce que c'est difficile à prononcer, et on s'en rappelle pas. Parce que Palladium a reçu beaucoup de mauvaise presse, c'est-à-dire qu'avant même que ce soit une techno dont les spécifications n'ont jamais été publiées pour l'instant. Hein. Donc on annonce que le développement a commencé en 97. Il y a eu plusieurs démonstrations, dont une en deux, enfin deux en 2003. Les deux démonstrations en 2003 n'étaient pas sur les mêmes plateformes. Il y en a une qui était uniquement sur la TPM avec TCPA et l'autre sur utiliser une technologie d'Intel qui s'appelle Lagrange, qui est un peu similaire, qui est juste un surensemble. Mais bon, et aujourd'hui sur le site de NGSCB, après toute la mauvaise presse qu'il y a eu sur Palladium, puisque c'est la même chose en fait. Microsoft annonce qu'ils sont en réflexion et ils vont complètement redesigner la norme. Donc on attend un petit peu de voir ce que sera la norme future. Mais alors je peux vous parler un petit peu de ce qui a été présenté lors des démonstrations malgré tout en 2003, parce qu'on peut penser que ça reste un projet quand même chez Microsoft. Donc c'est toujours l'informatique de confiance, c'est toujours les mêmes services, c'est toujours le SELMant. Donc SELMant, c'est chiffrage par rapport à un état de la machine. C'est toujours de l'attestation, c'est-à-dire signature par rapport à un état de la machine. Mais ça fonctionne en s'appuyant bien sûr sur quelque chose qui est similaire à la TPM de TCPA. Microsoft, ils ont un autre nom, mais c'est anecdotique, ils appellent ça SCP. Mais c'est basé sur les mêmes principes avec une puce matérielle qui a un coffre-fort dans votre machine. Et au-dessus, par contre, ça c'est un petit peu différent, vous auriez deux systèmes d'exploitation. Le système d'exploitation classique que vous connaissez, Windows, dans ses différentes formules, et à côté un système tout petit qui serait uniquement spécialisé dans ces fonctions dites de sécurité, qui s'appellerait le Nexus. Et le Nexus, autour du Nexus, il y aurait des applications qui seraient au-dessus de cet OS, de la même manière que vous avez des applications dans Windows. Et ces applications, on les appellerait des NCA, et auraient pour être développées par Microsoft, mais aussi par des tiers. Donc, pour être plus concret, on prend un logiciel comme Windows Media Player, qui aujourd'hui joue des films. On pourrait avoir un plugin NCA de Windows Media Player, qui serait chargé de la gestion des droits des films que vous chargeriez avec ce logiciel. Et donc ce plugin, ce serait lui qui s'occuperait de vérifier les droits à travers toute cette chaîne de confiance qui va du matériel de votre coffre-fort jusqu'à l'écran. Parce que c'est vrai que Palladium est beaucoup plus... est beaucoup plus ambitieux que TCPA et ambitionne en fait de créer une chaîne de confiance qui concerne les entrées, c'est-à-dire que les entrées au niveau du clavier et la souris soient sécurisées, bien sûr au niveau de l'OS, mais également sur la sortie, c'est-à-dire que une certaine zone de l'écran soit gérée par ce nouveau spécialisé. Et soit elle-même sécurisée. Ça veut dire que vous n'auriez plus aucun moyen, il n'y aurait plus de trou numérique. C'est-à-dire que la chaîne serait numérique entièrement et entièrement chiffrée. Ça permettrait, bon, à part filmer l'écran, ça serait encore possible. Vous n'auriez plus moyen de mettre à un moment donné dans le circuit un fil, par exemple sur la sortie vidéo, et prendre le contenu numérique du film que vous êtes en train de regarder. Ce ne serait plus possible parce que tout ça serait chiffré. Alors ça nécessite pas mal de modifications par rapport au matériel déjà existant. Hein. Ça nécessite de changer les cartes graphiques, les écrans, la mémoire, les claviers, les souris, tout. Mais bon, c'est l'ambition du projet un petit peu. Voilà. Alors voilà pour la partie technique. J'espère que je n'ai pas été trop technique. Alors ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Parce que ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir à des choses bien. On peut imaginer que avoir un Linux qui fonctionne au-dessus de TCPA, qui est pour gérer vos clés comme aujourd'hui on les gère de manière logicielle, on les gérerait avec le matériel, ça permet d'améliorer simplement la sécurité. Mais c'est quand même des systèmes qui ont été faits au départ pour, avec comme client principal, le DRM. Voilà, le mot est lâché. Le DRM, c'est Digital Rights Management, ça veut dire la gestion numérique des droits d'auteur. Alors, c'est vrai qu'en tant que tel, et ça, tous les gens de Microsoft vous le diront, les gens d'Intel, etc., en tant que tel, TCPA, c'est pas du DRM. En tant que tel, Palladium, c'est pas du DRM. Mais c'est l'idéal pour faire du DRM. Alors, on peut faire du DRM sans ça. D'ailleurs, c'est déjà implémenté. Il y a un truc qui s'appelle RMS chez Microsoft. Ça peut faire rire, mais il y a un truc qui s'appelle RMS chez Microsoft qui s'appelle Rights Management Services. Et ça permet de gérer dans les dernières versions de Word, etc., la gestion de votre document. Vous pouvez décider que le document que vous avez créé ne pourra pas être lu par d'autres personnes que les gens de votre organisation ne pourra pas être ouvert plus de 4 fois, enfin des genres de choses un petit peu. Bon, j'ai pas testé, donc je dis peut-être des bêtises, mais grosso modo, c'est l'esprit. C'est ça du DRM. Ça veut dire que on impose sur un contenu numérique des droits d'usage. Ça peut être fait de manière complètement software, mais l'avantage d'utiliser quelque chose comme TCPA ou Palladium, c'est que ça rend le contournement de ces DRM très difficile. C'est-à-dire qu'on élève énormément la somme d'argent nécessaire, parce qu'en sécurité, c'est souvent ça, rien n'est incassable, mais c'est combien ça vous coûte. La somme d'argent nécessaire pour casser ce genre de protection est hors de portée de l'individu, bien sûr. Ça reste réservé aux sociétés grosses, voire aux États. Alors bien sûr, l'idée de ces technos et du DRM, ça peut être donc de protéger le dernier film de Walt Disney et de dire que ce film-là, qui serait téléchargé, ne pourrait être vu que 3 fois, puisque vous avez payé que la somme nécessaire pour le voir 3 fois. On peut aller beaucoup plus loin, parce que comme tous les ordinateurs, il y a un effet réseau qui est créé, c'est-à-dire que si tous les ordinateurs utilisent ce genre de système, Ça peut aller aussi loin que si j'achète un contenu numérique comme une musique, je peux interdire de le prêter. Ou alors, si j'autorise le prêt, c'est-à-dire des droits d'usage que vous avez aujourd'hui, hein, quand on achète un CD, même si le peer-to-peer, on est en discussion aujourd'hui, ça vous pouvez le faire, hein, vous pouvez prêter un CD. Mais avec ce genre de système, on peut imaginer que si vous prêtez un contenu numérique, automatiquement, vous ne pouvez pas le voir au moment où vous l'avez prêté, puisque la machine, elle est capable de faire le rapprochement. Il y a pas mal de choses intéressantes qu'on peut imaginer, comme la révocation automatique des documents, si jamais l'auteur qui l'a créé le décide. Ça peut être très utile pour certains procès qui ont eu lieu. On voit que la collecte de preuves aujourd'hui dans les affaires judiciaires américaines pour des gros scandales boursiers, ça a été de collecter des centaines de milliers d'emails, voir ce qui s'est passé dans les sociétés-là. Avec des systèmes comme ceci, on peut imaginer que les emails seront effacés automatiquement au bout de 30 jours, au bout de 45 jours, suivant des règles à définir. Ça peut être très utile. Microsoft a là aussi un moyen extrêmement intéressant pour éteindre à distance ou empêcher le fonctionnement de toute copie pirate, hein, ça c'est évident. Alors au début, les revendications de Microsoft, c'était plutôt ça va arrêter les virus, ça va arrêter le spam, ça va vous protéger, vous. En fait, c'est pas vrai du tout, parce que contrairement aux effets qu'on peut prédire, tels que je les ai décrits là, les virus, les spams, etc., ne se passent pas. C'est des inconvénients qui se passent à un niveau beaucoup plus haut dans la machine. Ça se passe déjà au niveau autorisé. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un vous envoie un spam, on peut très bien vous envoyer un spam avec une machine protégée. On peut signer un spam, en fait. C'est pas un problème. On peut imaginer acheter des machines protégées, palladiumisées, pour envoyer des spams. C'est pas un problème. De la même manière, les virus, ça se passe souvent au niveau du social engineering, c'est-à-dire qu'on vous trompe en vous mettant, en vous faisant croire, en vous faisant passer pour quelqu'un d'autre, soit c'est des trous de sécurité dans des langages de script très évolués. Donc on n'est pas dans les mêmes niveaux au niveau de la machine, au niveau informatique, et c'est pas ce genre de technologie qui permettra de nous protéger de ce genre d'inconvénients. Mais par contre, c'est vrai que le DRM, c'est une des applications qui est la plus immédiate. Alors, la question derrière ces technos, c'est en fait qui a le contrôle. C'est-à-dire qu'on dit informatique de confiance, mais c'est confiance ou contrôle. Non, c'est plutôt... la confiance, quelque part, elle est déplacée. C'est-à-dire que c'est pas pour que vous ayez confiance à votre machine. C'est que pour que Microsoft ou pour que Walt Disney ait confiance dans votre machine. En fait, c'est ça l'informatique de confiance. C'est-à-dire que des tiers, les gens qui vont vous vendre des contenus, puissent avoir confiance dans la machine que vous avez achetée. Donc, il ne fallait pas croire que c'était votre confiance à vous. Alors, c'est vrai que ça participe, on l'a vu, à la tendance expansionniste un petit peu du contrôle, on l'a vu dans la sphère propriété intellectuelle. Mais ça revient de manière, dans un monde où il y aurait, avec l'effet réseau, que des machines de ce type, et c'est totalement possible, parce que c'est vrai que si un système de ce genre s'installe, si les sites web de votre banque, de la sécurité sociale, des industries du contenu, tous les sites web se mettent à réclamer le fait que vous puissiez se connecter à leur serveur et vous puissiez télécharger votre feuille de sécu, votre compte en banque, etc., vous soyez obligé d'avoir un système labellisé. Effectivement, ça oblige par l'effet réseau à ce que tout le monde finisse par utiliser ce type de système. Et dans le cas où ce système est généralisé, on arrive effectivement à recréer, et c'est peut-être une utopie on a dit tout à l'heure que c'était pas possible, en fait c'est peut-être possible, à recréer cette fameuse rareté dans le monde numérique. Et c'est en fait le but ultime un petit peu de ces technologies, c'est introduire de la viscosité, là où il y avait disparition de la viscosité, et où il y avait les copies à coup nul, etc. Un petit peu aux antipodes, en faire du peer-to-peer. On est vraiment complètement à l'opposé. Ça pose d'autres questions plus ou moins techniques, comme comment faire les sauvegardes, etc. Questions sur le monopole, parce que c'est vrai que si ces machines sont contrôlées à ce point par les constructeurs ou les vendeurs du soft, La question, il ne pourra plus avoir de vendeur indépendant de logiciel de backup, par exemple. Puisque pour backuper vos données, ça suppose de décrypter, donc ça suppose d'avoir accès aux clés, etc. etc. Donc c'est encore un petit peu plus étendre le monopole du vendeur de système d'exploitation. Il y a des problèmes en termes d'indépendance nationale, puisque le fait qu'on déplace le contrôle chez des tiers qui sont soit les fournisseurs de contenu, soit les fournisseurs de système d'exploitation de soft, ça veut dire aussi que ce contrôle n'est plus dans la loi. C'est-à-dire que même si la loi vous dit que vous avez le droit de faire telle et telle chose avec telle œuvre, si la machine Palladium vous dit que vous n'avez pas le droit, ben, vous ne pouvez pas le faire. Donc, par exemple, la copie privée, c'est clair et net que ce ne sera pas possible. Sauf si ça a été décidé. Je vous laisse imaginer si ce sera ou pas. Il y a déjà des. Et enfin, ça pose enfin un problème sur la concurrence, sur le droit de la concurrence. C'est-à-dire que le fait de. On a déjà ça, hein, on a des fabricants de cartouches, enfin d'imprimantes, pardon, qui imposent de mettre leurs cartouches, sinon, si vous mettez là une cartouche compatible, ça ne fonctionne pas. Bon, là, ce sera la même chose, en fait. Donc, quelque part, on a les mêmes effets pervers. La seule différence, c'est que le contournement de ces effets pervers devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile, en fait. Et enfin, ça pose la question, et c'est aussi un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est comment faire cohabiter le monde qui est en train d'émerger, nouvelle formule du logiciel, qui s'appelle le logiciel libre, avec cette vision un petit peu policière de l'informatique. C'est difficilement compatible, en fait. Parce que c'est vrai qu'en théorie, on peut imaginer très bien un système d'exploitation libre qui intègre, qui utilise ATPM et qui intègre le même type de fonction. Le problème, c'est que l'utilisation de l'attestation, c'est-à-dire de la signature par rapport à un état du système, se fera par définition par rapport à un état compilé du système, donc pas par rapport au code source. Et donc par un état compilé qui a été distribué avec un certificat donné. Et donc il est évident que le fait que vous ayez les sources vous sera de peu d'utilité. Puisque le fait de recompiler votre système d'exploitation et d'installer Linux, si c'est votre version à vous, elle sera inutilisable. Dans un Internet qui utiliserait ces technologies-là, votre version à vous de Linux ne servira même pas à vous connecter sur Internet. Ce sera au mieux un banc de test pour tester un nouvel OS. Donc ça pose des vrais problèmes. Voilà, ben j'en ai à finir, je crois. Sinon, je voulais finir par un clin d'œil qui m'a été soufflé dans le fond de la salle ce matin. C'est vrai que tout à l'heure, un des intervenants disait, c'est compliqué quand même de créer une médiamétrie globale pour mesurer ce qui se passe sur le peer-to-peer. Mais je vous assure, si c'est compliqué de construire une médiamétrie globale, c'est beaucoup plus compliqué de construire un état policier global en informatique. Donc c'est peut-être mieux de s'atteler à la tâche la moins compliquée des deux. Voilà. Merci.
Merci Christophe pour cette intervention. Donc on pourrait dire en résumé que les systèmes de confiance qu'on nous propose, ça consiste à transformer nos ordinateurs en des boîtes noires dans nos salons qui seraient contrôlées
Un peu pire, même.
depuis l'extérieur. Ouais, voilà. Avant de laisser la parole à Jean-Vincent pour parler de licence légale, Tariq m'a demandé de lui laisser intercaler quelques mots.
Je voulais juste, on parlait de contrôle et de TCPA, je voulais juste rappeler que tous les téléphones mobiles qui sortent l'année prochaine ont déjà intégré ces solutions. Le protocole s'appelle OMA, donc on peut déjà aujourd'hui acheter les derniers téléphones mobiles qui n'utiliseront pas de contrôle complet cette année. Un deuxième point dont vous avez parlé qui est très important, vous parliez des données personnelles sur l'ordinateur, mais ce ne sont pas les données personnelles de l'ordinateur qu'on va vouloir utiliser dans ces systèmes, ce sont les données personnelles tout court, c'est-à-dire que demain, les fichiers qui seront signés avec des données personnelles. Et l'enjeu de la conquête des DRM, par ce biais, devient l'enjeu de la conquête des données personnelles. Et ça, c'est effrayant, comme vous l'avez dit. Il y avait juste un dernier point, parce que je m'adresse à certains juristes ici, que je me suis posé, j'en avais parlé avec Jean-Vincent, à propos des DRM. Dès lors que l'on intègre dans les fichiers le nom des ayants droit, notamment les producteurs, les gens qui doivent toucher de l'argent sur ces fichiers DRM qui sont ensuite exploités, une fois que sais pas, tel studio ou tel producteur vend ses droits à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tous les fichiers DRM qui vont circuler, qui ont été produits, fondus avant ce changement de droit, conserveront les anciennes informations. Et donc le DRM devient également un monopole sur les reversements ad vitam aeternam. Que se passe-t-il après, lorsque le contenu devient en domaine public, après, au bout de 50 ans, 75 ans? Alors je ne sais pas si les fichiers WMA existeront encore dans 50 ou 75 ans, mais ça pose effectivement le problème.
Quelque part, oui, le contrôle migre de la loi au soft et celui qui le produit, c'est clair. Et ça c'est un des effets, mais c'est général à l'ensemble des technologies.
Ce monopole est contraire au droit sur la propriété intellectuelle, me semble-t-il. On n'a pas le droit de jouir ad vitam aeternam ce droit.
Mais de facto, ça le sera.
Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on a des juges aujourd'hui qui apprécient la situation dans toute sa complexité et non pas des machines à calculer automatiques qui nous dictent la loi. Bien, ça me fait une bonne transition.